Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et l'histoire et j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Mathieu Lours.
Bonjour.
Qui est avec nous dans notre studio à Chartres. Il est docteur en histoire et agrégé de l'université. Il va nous consacrer du temps pour nous parler des aménagements liturgiques dans les églises. Donc je vous souhaite la bienvenue et vous êtes aussi chargé de cours à l'École internationale du patrimoine et du vitrail ici à Chartres.
Voilà, donc j'ai le plaisir d'intervenir 6 fois dans l'année justement sur ces questions des rapports entre les arts et plus précisément de l'architecture et la liturgie. Sur une période assez longue, parce qu'on part des basiliques de Constantin et on va arriver à après Vatican II, à aujourd'hui.
Ça serait peut-être très intéressant pour nos auditeurs qui découvrent cette problématique de nous parler un peu de l'origine des aménagements liturgiques. Donc comment sont conçues les premières églises et comment la forme va changer puisqu'on aboutit à l'époque gothique aux églises qui ont la forme de la croix.
Bien sûr, parce que tout aménagement liturgique est lié en fait à une mémoire. Et à plusieurs étapes dans son histoire, l'Église va revoir les aménagements liturgiques, justement, soit pour intégrer des nouveautés, mais qui sont en fait des traditions qui sont réélaborées, soit pour revenir à un usage premier. Et justement, cet usage premier, il est intéressant de le connaître. Il y a eu effectivement les premières maisons d'Église dans lesquelles les chrétiens ont célébré de façon discrète les saints mystères. Et puis, il y a la grande sortie des chrétiens sur la place publique, qui est évidemment la paix constantinienne. Constantin qui, en 313, autorise le culte chrétien, qui progressivement favorise le christianisme jusqu'à l'embrasser sur son lit de mort, et là, le culte devient public. Et donc, il faut un édifice spécifique dans la cité pour célébrer. Et ça va être la naissance des premières grandes basiliques, dans laquelle les fidèles doivent être réunis, parce que le christianisme, à la différence de la religion antique, c'est une religion personnelle, une religion initiatique. Le culte de la Rome classique était rendu en avant des temples, à l'extérieur. Le temple n'était que la maison du Dieu, alors que la basilique, c'est la maison de Dieu et la maison des hommes au sein de la cité. Et évidemment, le pôle central, c'est l'autel. Voilà, tout se construit donc autour de cet édifice enveloppant qui se distingue du temple, justement, pour éviter la reprise du paganisme également, et qui va structurer progressivement. L'idée de l'autel et de la communauté sont vraiment les idées premières de l'aménagement liturgique. Et jusqu'à nos jours, ça va être ça l'essentiel. Du moins dans l'église principale. Après, les autres sacrements, comme le baptême par exemple, vont avoir des lieux spécifiques. Et tout va se structurer autour de ça.
Est-ce que les premiers chrétiens vont faire attention d'orienter la célébration ?
Alors, elle est fondamentale, cette orientation, mais il faut bien voir ce qu'on oriente. C'est le prêtre célébrant qui doit être tourné vers l'Orient, ad orientem. Donc, ce n'est pas du tout le fait de tourner le dos aux fidèles ou d'être face aux fidèles, la question. C'est que le prêtre célèbre face à l'Orient. Et suivant leur implantation, les premières églises vont être soit tournées vers l'Orient, soit tournées vers l'Occident, mais la position du prêtre ne va pas varier. Résultat, c'est que dans la mesure du possible, on va effectivement tourner les églises vers l'est, et donc le prêtre et la foule vont être orientés dans le même sens, mais à Saint-Pierre de Rome, où on avait une importante déclivité, où on avait la contrainte de célébrer sur la dépouille de Saint-Pierre, eh bien depuis toujours à Saint-Pierre de Rome, le pape célèbre face à l'Orient, mais comme l'église est tournée vers l'Occident, le pape célèbre aussi face au peuple depuis toujours, avec une continuité parfaite au Moyen-Âge, à l'époque moderne et encore aujourd'hui.
Alors, après la paix constantinienne, on va utiliser sans doute des bâtiments déjà existants. Donc, on va transformer ces grandes basiliques en églises.
Eh bien, pas tellement. On va plutôt les construire. C'est-à-dire qu'on va construire de nouvelles églises sur le plan et sur le modèle des basiliques profanes, mais on va assister à très peu de récupération, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire que souvent, quand le christianisme a pu s'afficher au grand jour en 313, Rome est encore Rome, la Rome antique. Et donc l'État ne va pas aliéner des édifices aussi importants que les basiliques du Forum, par exemple, pour en faire des églises. Ça reste des édifices publics. Il y a des transformations plus tardives et surtout en Orient. Surtout en Orient, à Éphèse par exemple, l'église où a eu lieu le fameux concile d'Éphèse avait été installée dans une basilique profane. Mais en Occident, ça n'a pas tellement été la règle. Sur le Forum romain, les grandes basiliques ont dépéri et sont aujourd'hui à l'état de ruine, la basilique émilienne, la basilique julienne, la basilique de Maxence, sans qu'on essaye de les transformer en église. Quelques petits temples vont être transformés en église, parfois ponctuellement. Et puis il y a quand même le cas très particulier du Panthéon romain, devenue basilique Sainte-Marie des Martyrs. Mais c'est très tardif, c'est déjà au 7e siècle qu'elle est convertie en église.
À partir de quel moment on va introduire dans l'autel les reliques des martyrs ?
Alors, dans l'autel, probablement dès le 5e siècle. La première pratique, c'était de placer l'autel sur le corps des saints. Et vous voyez ça encore dans de nombreuses basiliques romaines, Saint Clément par exemple, Saint Marc ou Sainte Sabine, ont leur autel surélevé, placé sur une petite confession, en fait, sur le modèle de ce qui se passait à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, on avait creusé donc une fosse, une sorte de crypte à ciel ouvert, devant la sépulture de Saint-Pierre, ce qu'on appelle la confession, et l'autel était placé au-dessus. Et on va copier ce modèle dans la plupart des basiliques. Mais hors de Rome, effectivement, l'usage va plutôt être de placer les reliques à l'intérieur de l'autel, dans une cavité prévue à cet effet, soit dans le pied de l'autel, soit dans la table de l'autel, mais plutôt dans le pied à l'origine. Et ensuite, on pourra célébrer comme ça, au-dessus des corps saints, au-dessus du corps des martyrs, puis des confesseurs.
Approchons-nous de l'époque carolingienne. Oui. Est-ce qu'il y a des changements importants dans la construction des églises à l'époque carolingienne ?
Alors, à l'époque carolingienne, on va assister donc à une rénovatio imperii, donc une restauration de l'Empire, et donc elle ne peut passer que par une restauration de l'Église, puisque le modèle de Charlemagne, c'est bien sûr Constantin. Mais l'Église s'est profondément transformée, puisqu'on est quand même 5 siècles après Constantin. Et notamment, on a désormais l'impératif de multiplier les autels dans l'Église et de multiplier les espaces spécifiques. En effet, le clergé s'est constitué comme un corps social bien particulier, donc les moines, les chanoines, vont avoir besoin d'un chœur spécialement distinct où célébrer plusieurs fois par jour les offices. Le clergé va avoir également besoin, lors des célébrations de la messe, d'un sanctuaire beaucoup plus isolé, beaucoup mieux délimité. Et puis surtout, ce clergé très nombreux va avoir besoin, pour le clergé qui est prêtre, de célébrer une messe une fois par jour et par prêtre. Et pour chaque prêtre, il n'y a pas de concélébration. Et donc, il va faire une multitude d'autels, parce que théoriquement, on ne peut célébrer qu'une seule fois sur un autel pour chaque jour. Alors évidemment, très rapidement, ça va être impossible, parce que quand on a 50 ou 60 moines, on n'a pas 60 autels dans l'église. Mais le maître-autel, en tout cas, va être célébré seulement une fois par jour, lors de la grand-messe. Et lors de la première messe prévue par l'office, on va déjà avoir besoin d'un deuxième autel dans le sanctuaire. On va le placer généralement derrière, d'où son nom d'autel de rétro, ou du nom d'autel de prime, puisqu'on y célébrait la première messe qui était célébrée après prime. Et puis, dans les chapelles, le long des piliers, dans les cryptes, même parfois dans les tribunes, on va avoir une multitude d'autels pour que tous les prêtres puissent célébrer leur messe quotidienne, qui est souvent une messe basse. Et là, on va accepter, on va tolérer qu'ils se succèdent les uns les autres sur ces éléments. Et donc, l'architecture carolingienne, elle répond à cette multiplication par une spécialisation des espaces. Et on a le fameux plan du monastère de Saint-Gall, un monastère situé en Suisse. On a un plan très ancien, probablement du 9e siècle, qui montre justement cette multiplicité des autels.
Que l'on peut constater encore dans la cathédrale de Chartres jusqu'au XVIe siècle, si je ne m'abuse, il y avait 39 autels dans la partie supérieure de la cathédrale,
oui, oui,
qui
il y avait
ont
des...
été supprimés ensuite.
Voilà, il y avait des autels appuyés sur les piliers de la nef, puisqu'il n'y a pas de chapelle architecturale dans la nef de Chartres, il y avait quand même des chapelles du point de vue fonctionnel. Donc ces autels étaient appuyés sur les piliers, et de nuit, dans les années 1640, le chapitre qui constate que ça encombre et qu'on peut regrouper ses fondations sur les autels des chapelles rayonnantes, eh bien finalement va faire disparaître, mais de nuit, parce qu'on a très peur que les fidèles soient offusqués par cette disparition.
On va faire une petite pause musicale après ce premier tour d'horizon qui nous a fait découvrir les aménagements liturgiques des premiers siècles chrétiens jusqu'à l'époque carolingienne. Reprenons, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, notre entretien avec Mathieu Lours qui nous parle des aménagements liturgiques des églises. Nous avons vu dans la première partie de notre émission les premières basiliques constantiniennes. Nous avons parlé des aménagements à l'époque carolingienne. Venons-en maintenant à l'époque romane et gothique. Déjà, les deux termes ne sont pas historiquement très anciens.
Non, alors gothique, il date du XVIe siècle et c'est pour dire architecture médiévale qui ne plaît pas. C'est Vasari qui invente ça dans ses vies des plus illustres artistes pour expliquer que voilà, quand c'est médiéval, c'est pas beau, et c'est pas beau parce que ça a été fait par les barbares, par les Goths. Bon, mais très longtemps, on n'a pas distingué roman et gothique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle roman, c'est le premier âge gothique, c'est-à-dire le pire de tous. Et c'est seulement en 1817 qu'un érudit va imaginez que cet art, ce premier art gothique, soit autre chose et soit un art à proprement parler. Et là, il va falloir lui trouver un nom. Alors, il va constater que ce premier art, un peu comme nos langues romanes, mélange du latin et des apports germaniques. Et effectivement, une église romane, c'est à la fois une évocation de la romanité, avec des chapiteaux qui peuvent être corinthiens, avec des portails qui peuvent, comme à Arles ou à Saint-Gilles, évoquer des arcs de triomphe ou des constructions romaines. Et puis un nouveau principe, tout le bestiaire roman, les scènes très réalistes, expressionnistes que vous avez sur les portails et sur les fresques, et tout ça, c'est l'apport germanique, alors ça va être roman. Donc là, roman est né au XIXe siècle, si vous voulez, en tant que concept. Mais ça fonctionne quand même relativement bien. Et puis le gothique, quant à lui, il apparaît au milieu du XIIe siècle, essentiellement à Saint-Denis, et c'est un art qui est tout de suite théorisé. Il est théorisé par la pensée de Suger, qui reprend l'aristotélisme médiéval, qui reprend les textes philosophiques et théologiques comme celui du pseudo-Denis. Donc c'est un art très conceptuel dès l'origine, à la différence du roman qui est plus processuel. Et évidemment, du point de vue liturgique, on est au milieu de ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est-à-dire cette grande réforme de l'Église du milieu du Moyen-Âge.
On peut quand même distinguer les églises dites romanes avec des petites fenêtres où les peintures sur les murs prennent le pas sur les vitraux. Oui. Il y en a, mais les vitraux ne racontent pas comme à l'époque gothique, donc les histoires, les légendes ou scènes de la Bible.
Voilà, alors du point de vue formel, bien sûr, on a une grande différence entre les deux, même si structurellement, on conserve toujours le chœur clos, le jubé, le sanctuaire, etc. Et effectivement, dans l'église romane, le support iconographique, c'est la sculpture et c'est la fresque sur les murs. Avec le gothique, on fait le choix de transférer ce support iconographique essentiellement sur le vitrail. Et dans l'esprit médiéval, il faut bien voir que image peinte, qui était également colorée, image sculptée, colorée, vitrail coloré, il n'y a qu'un terme pour le dire, c'est image, imago. Donc on ne fait pas la distinction entre les arts. Du moment qu'il y a de l'image, on est content et le vitrail reprend en fait, à l'époque gothique, beaucoup des attributs de ce qu'était la mosaïque ou la fresque à l'époque romane. C'est-à-dire l'idée que la lumière donne du sens.
Oui, parce que dans les petites aisselles, les mosaïques étaient inclinées légèrement pour refléter la lumière.
Voilà.
Alors que le 19e siècle, dans les restaurations, on va, dans un souci de perfection, introduire une planéité était nuisible à la beauté.
Tout remettre droit.
Tout remettre droit.
Notamment à Germigny, notre seule mosaïque carolingienne, aujourd'hui, tout a été réaplati au 19e.
Alors, dans les églises romanes, on va mettre l'accent sur l'ouverture unique, le portail qui accueille le fidèle.
Oui, avec un développement monumental de toute la façade. C'est-à-dire qu'autour du portail, vous avez un véritable massif occidental qui existe depuis l'époque carolingienne, avec une chapelle au premier étage, souvent dédiée à Saint-Michel. Et à l'époque romane, cet espace d'accueil va prendre une importance beaucoup plus grande. Regardez à l'abbaye de Tournus en Bourgogne, c'est véritablement une église avant l'église. À Cluny, c'était une église avant l'église. À Tournus, vous aviez une église basse de trois travées en arrière de la façade pour les fidèles, et au-dessus, une grande chapelle formant un chœur supérieur pour les moines. À Cluny, cette première église a même ses tours indépendantes.
On peut peut-être rappeler qu'effectivement, dans cette avant-nef dont vous parlez, accessible aux laïcs, peut-être là, les pèlerins pouvaient dormir, mais pas dans l'espace réservé à la liturgie.
Non.
C'est inimaginable de penser que des moutons, des chiens ou des pèlerins encrottés par de longs chemins puissent reposer à l'intérieur de l'espace qui est le sanctuaire.
Peut-être ponctuellement, lors des grandes affluences, mais en tout cas pas dans le chœur, pas dans le sanctuaire. Peut-être dans les nefs, peut-être dans les avant-nefs. Et en tout cas, les animaux, ça a toujours été dénoncé comme un abus, puisqu'on a des arrêts des évêques qui en ont assez, notamment à Strasbourg, puisque le plus court chemin à Strasbourg pour aller de la porte de la ville au marché, c'était de traverser le transept de la cathédrale. Et on a des arrêts contre les gens qui passent avec des troupeaux de porcs, avec des hottes, avec tout ce qu'on veut dans cette cathédrale. Mais sans jamais aller jusqu'à faire comme à Milan, où Saint-Charles Borromée au XVIe siècle va faire murer les portes du transept.
Pour empêcher que les gens traversent la ville. C'était un abus, en effet. Donc le cœur n'est pas toujours arrondi. Il y a peut-être des différences dues aussi au clergé, qui a un statut différent. Cœur plat, cœur arrondi.
Il y a des choix topographiques. Il y a une rue derrière l'église. Ben, on ne va pas mettre de déambulatoire parce qu'on va optimiser l'espace. Il y a des choix formels. Par exemple, en Angleterre, on aime beaucoup les chevets plats parce que ça permet de déployer un grand vitrail au-dessus de l'autel qui a la fonction de retable. On va trouver ça parfois en France. Et puis, il y a effectivement des fois l'impératif de pouvoir faire circuler les fidèles autour du cœur parce qu'on a des reliques précieuses qui sont exposées dans les chapelles du chevet. Et dans ce cas-là, il faut que les fidèles puissent passer sans déranger la prière du clergé. N'oubliez pas que le rapport de nombre est totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Dans le cœur d'une cathédrale, vous avez parfois 150, 200 ecclésiastiques qui ont le droit de s'asseoir tous les jours. Donc ce n'est pas un espace vide, c'est un espace plein, parfois plus plein que la nef. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le cœur c'est vide et qu'au mieux, il y aura un prêtre et trois enfants de cœur dedans. C'est pas du tout le cas à l'époque.
Je pense qu'au XIXe siècle, on pouvait encore avoir une notion de ces grandes cérémonies, puisqu'il y avait, je crois, 90 enfants de cœur qui participaient aux processions. Cela devait occuper effectivement tout l'espace dans la cathédrale.
Voilà, sauf qu'au XIXe siècle, on n'avait déjà plus les grandes cohortes monastiques. La Révolution française avait supprimé tous les ordres monastiques, ceux qui ont été reconstruits au XIXe siècle, étaient nombreux et vifs, mais jamais à l'intérieur des villes on a retrouvé la densité cléricale d'Ancien Régime, notamment la densité cléricale régulière.
À Chartres aussi, on avait une bonne vingtaine d'églises et de chapelles à l'intérieur de la muraille de la ville, et beaucoup d'églises ont disparu, aujourd'hui transformées en musées, et on peut redécouvrir juste les restes de ces églises qui étaient ornées avec les vitraux, avec les peintures, avec tout le décor. Il y a aussi donc une continuité, là où un premier martyr aura trouvé sa mort, on va construire un premier lieu de célébration liturgique, il y a une continuité, on ne va pas déplacer, comme à Saint-Pierre de Rome, on ne va pas déplacer le maître-autel quand l'église va être agrandie. Il faut se débrouiller pour qu'on célèbre toujours au même endroit.
Alors parfois, il y a effectivement une polarisation, une christianisation mémorielle sur l'autel. C'est le cas à Reims, où on va ne jamais vouloir bouger l'autel de Saint-Rémy, l'autel qui est devenu ensuite l'autel d'Incmar, à tel point qu'on va faire un cœur architectural à la cathédrale de Reims de près de 40 mètres de profondeur qui ne sert à rien du point de vue fonctionnel. Parce que le cœur liturgique reste en avant de l'autel dans la nef, et l'autel d'Incmar est aujourd'hui à la croisée du transept de l'église gothique, et pas dans son cœur architectural. Donc le cœur architectural de la cathédrale de Reims, c'était un arrière-cœur qui servait uniquement pour l'autel des rétros et comme revestiaire au moment des sacres. Donc vous voyez que la structure peut se plier à la liturgie et à la mémoire de façon tout à fait spectaculaire.
Donc le sanctuaire architectural n'est pas forcément le sanctuaire liturgique.
Voilà, c'est toute la difficulté en matière d'architecture religieuse.
Je crois vous parler de trois espaces dans votre article, dans l'ouvrage « Décor et liturgie dans les églises de France au XVIIIe siècle » édité il y a quelque temps par les archives départementales, ici en Eure-et-Loire. Vous avez parlé de trois espaces dans les églises, l'espace vécu, l'espace perçu et l'espace symbolique. Peut-être vous pouvez expliquer un peu
on
ce qu'il faut entendre par ces trois termes.
On pourrait presque même ajouter l'espace social, pour être complet. Alors, l'espace symbolique, c'est l'espace qui fait de l'église une métaphore de la Jérusalem céleste, de la société chrétienne, de la demeure de Dieu, et aussi avec une référence au temple de Jérusalem. Donc on va avoir un saint des saints, c'est-à-dire le sanctuaire, l'autel et son strict environnement. On va avoir le lieu où se trouvent les prêtres, c'est-à-dire le chœur avec ses stalles, fermé par son jubé et sa clôture. Et puis le parvis qui est réservé au peuple élu, qui est la nef, et puis le parvis des gentils, qui est le parvis extérieur. C'est une métaphore qui est assez pertinente. Et puis, à cela répond l'espace social. Seul le célébrant rentre dans le sanctuaire avec ses assistants. Le chœur, c'est l'espace des chanoines, des moines, des personnes autorisées pour y assister. Et puis ensuite, vous allez avoir parfois dans le chœur certaines dignités laïques qui vont rentrer, certains grands seigneurs, les corps de ville lors des grandes cérémonies. Et puis la nef, qui, elle, va être réservée aux fidèles en permanence. Le déambulatoire ne leur étant accessible que lors des vénérations de reliques, puisqu'on ouvre et on ferme les grilles du déambulatoire à ce moment-là.
Et l'espace perçu ?
Alors l'espace perçu, c'est là que l'historien aimerait bien avoir plus de sources. On sait beaucoup
de choses. Donc la réception des espaces par les fidèles ?
Par les fidèles, par le clergé. Alors par le clergé, on le sait, hein, on voit parfois les petites obsessions des chanoines. Les chanoines, par exemple, considèrent que le cœur est clos, non seulement pour qu'ils soient chez eux, mais pour se protéger des courants d'air. Donc on a une idée de confort, il faut un jubé, sinon on aura des courants d'air et ce sera terrible.
Pour eux, c'est l'explication.
Voilà, et on voit, c'est une des explications, en tout cas, pour leur confort au quotidien, c'est vraiment essentiel. Et puis, on voit aussi à travers les annotations des chanoines qu'ils doivent se bagarrer pour que les fidèles ne rentrent pas dans leur espace. Et notamment, lors des jours de grandes fêtes, on trouve des gens qui montent sur les autels de la clôture pour essayer de voir par-dessus la clôture. On va trouver des femmes qui arrivent à s'introduire le matin très tôt et les chanoines se retrouvent avec des femmes dans les stalles lors des grandes cérémonies. Parfois, c'est un prêtre qui est un simple chapelain qui va s'asseoir sur la stalle d'un chanoine. Et à Saint-Méry, à Paris, ça va finir par une bataille à coups de bréviaire portée devant le Parlement de Paris pour coups et blessures. Voilà, chacun est vraiment cramponné sur ses prérogatives. Et l'évêque n'échappe pas à la règle. Lorsqu'il assiste à l'office, il est considéré comme un simple assistant. Il n'est pas dans la cathèdre. Il doit avoir sa stalle. Et alors, on déplace des chanoines, on les fait descendre d'un rang. Enfin, c'est très compliqué.
Merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va faire une petite pause. Mathieu Lours, vous qui êtes spécialiste de l'architecture religieuse, vous connaissez également bien la transition du roman vers le gothique et les aménagements que le Concile de Trente du XVIe siècle va progressivement apporter à l'architecture religieuse. Alors, qu'est-ce qui va changer donc par rapport à l'époque romane, telle qu'on l'enseigne à l'école, petite ouverture, contrefort collé contre le mur, une grande porte, trois fenêtres. Ah, le chiffre 3, peut-être vous voulez...
Très souvent, oui, baies trinitaires qui sont les seules visibles à partir du moment où on rentre dans l'église romane.
Donc il y a une grande importance aussi de la symbolique des chiffres, dans l'aménagement, j'imagine.
Bien sûr.
Et Abbé Suger va donc reconstruire sa basilique en élaborant une théologie de la lumière.
Voilà.
Peut-être vous voulez compléter cette idée.
Ou plutôt en appliquant autrement artistiquement une théologie de la lumière qui est bien connue depuis plusieurs siècles. Et donc l'idée, c'est effectivement que Dieu est lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière signifiante. C'est une lumière qui éclaire. Donc, l'idée, ça n'est pas d'avoir un édifice dans lequel on ait la lumière du plein jour. Ce serait un contresens absolu. Parce que la lumière dans l'édifice, ça n'est pas que l'éclairage, c'est aussi le luminaire, c'est-à-dire l'ensemble des cierges qui brûlent. Donc, c'est créer par la lumière une atmosphère qui est une préfiguration du ciel. C'est vraiment ça l'essentiel. Et donc, impacter le fidèle par cette atmosphère spécifique.
En général, on dit que les vitraux permettent de laisser rentrer une lumière colorée qui va transformer la pierre en pierre précieuse par la couleur. Cette pensée, elle préside aussi à l'élaboration des vitraux ?
Bien sûr, puisqu'il y a cette idée par la couleur bleue non de substituer l'or de la mosaïque qui aurait opacifié le vitrail par une couleur qui est celle de l'ultime ciel, d'après Aristote. C'est la couleur du ciel le plus élevé, c'est la couleur de l'éther. Donc le bleu, c'est par substitution du doré, qui était lui-même lumière divine. Donc c'est pas le bleu du ciel physique seulement, c'est un bleu métaphysique auquel on a affaire. Et donc la question de la lumière dans l'architecture gothique, c'est pas une question de quantité. Parce que plus les baies sont larges, plus on les opacifie par du vitrail. Et emmener un enfant dans Notre-Dame de Paris et dites-lui « ici Dieu est lumière », bah, c'est quand même assez sombre. Donc c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de dosage. C'est pas un interrupteur avec un variateur, la transition gothique-roman. Il y a des églises romanes, quand elles ont du verre blanc, qui sont plus claires que des églises gothiques. C'est vraiment l'idée, c'est une question d'idée, pas une question de réalité de la lumière seulement.
Quand est-ce qu'on va commencer à introduire le transept qui crée cette forme cruciforme des cathédrales?
Alors très très tôt, le transept, il y a un ouvrage de Michel Leurre qui a justement travaillé sur cette question. Saint-Pierre de Rome, la première basilique Saint-Pierre de Rome au IVe siècle a déjà un transept. Elle a déjà un vaisseau transversal sans qu'on sache si c'est pour des raisons symboliques, donner à l'édifice la forme d'une croix, ou bien pour des raisons pratiques, créer un espace de dégagement en arrière de l'autel dans le cas de Saint-Pierre de Rome, en tout cas de façon à permettre aux fidèles une sortie aisée de l'édifice sans perturber le culte ou sans provoquer un encombrement au fond de la nef. En tout cas, à l'époque gothique, ce qui est sûr, et même à l'époque romane, c'est que le transept a une valeur symbolique, en plus de sa valeur pratique. C'est vraiment l'idée que l'église apparaisse comme une croix.
Et les doubles déambulatoires, comme à Chartres par exemple, dans la cathédrale, permettaient aux fidèles, plutôt aux pèlerins, parce que les fidèles ne rentraient pas dans la cathédrale tel que c'est le cas aujourd'hui.
Le déambulatoire était accessible à certaines heures du jour, à certains jours. Enfin, on ouvrait les grilles et on les fermait. C'était un espace.
Donc effectivement, il y avait accessible. Des grilles comme aujourd'hui encore à Notre-Dame de Paris, oui. Et l'accès au déambulatoire est réglé.
Bien sûr.
Donc il y avait des clôtures qui devaient exister aussi à Chartres, j'imagine.
Sans doute. Oui, oui, on n'a pas de. Il faudrait revérifier, mais on a peut-être des traces. Il faudrait regarder dans les.
Alors, après la période gothique, il y a la réforme. J'imagine que les églises vont subir l'assaut des fidèles qui souhaitent sans doute se rattacher à nouveau au christianisme après les guerres de religion, au cours des guerres de religion. Quelles sont les transformations auxquelles l'église va procéder au cours des guerres de religion? Donc, avant que le Concile de Trente ne va recommander certains aménagements. Est-ce qu'on peut constater des transformations?
Alors, pas tellement. Le clergé, en fait, au moment de l'apparition de la réforme, ne change pas réellement les choses. Et c'est justement l'arrivée du protestantisme qui va faire réfléchir l'Église catholique. Donc, et dès avant le Concile de Trente.
Alors, comme nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, qui était passionnante et intéressante, nous restons sur cette idée de transformation avec le Concile de Trente et nous nous retrouvons, si vous voulez bien, et je vous remercie par avance de vous retrouver ici dans le studio, nous nous retrouvons dans une deuxième émission où nous allons aborder ces questions des aménagements des chœurs, liturgiques surtout, consécutifs au Concile de Trente. Je vous remercie beaucoup Mathieu Lours d'être venu dans notre studio, je remercie beaucoup les auditeurs de nous avoir consacré leur temps d'écoute. Merci beaucoup et au revoir.